Soft Power, Zoé Sfez.
France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles, créatives et du numérique. C'est tous les dimanches de 18h10 à 19h30. Et ce soir, comme chaque semaine, bien que ce soit presque la fin de l'année, on parle donc des industries culturelles, des médias, de la politique culturelle, de numérique et de musique. Des industries culturelles d'abord avec notre plateau principal. J'ai le plaisir de recevoir Fabien Baratti et Annabelle Mauger sur ce sujet. Que le numérique, qu'est-ce que le numérique fait à l'art? Et précisément, la question des expositions immersives, on les a vues arriver tout autour de chez nous, à Paris, mais aussi à Bordeaux, à Lyon, à Grenoble, un peu partout en France. Alors, quelles technologies utilisent-elles, ces expositions immersives? De quoi parle-t-on? Réalité virtuelle, réalité augmentée, mapping? Quels sont leurs modèles économiques? Ils sont très variés, qu'on les retrouve dans des lieux privés ou dans des musées. Quel public visent-elles ou entendent-elles viser? Et surtout, quelle place occuperont-elles dans 10 ans, dans 15 ans, dans notre rapport à l'art? Que disent-elles, surtout, de notre rapport aux œuvres physiques ou plus physiques? On parlera évidemment aussi de numérique, avec un sujet sur Amazon. Et puis, on retrouve Frédéric Martel en fin d'émission pour un reportage sur le canal de Suez, le nouveau canal de Suez, ouvert en 2015. C'est en Égypte et c'est un sujet de soft power. Cette émission est réalisée aujourd'hui par Émilie Valla, avec au son Audrey Guélil. Elle a été préparée par Nathan Marcel-Millet, mais aussi par David Pata, qui est également aux manettes sur les réseaux sociaux ce soir. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission, comme toutes les semaines, sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power de Spotify, et puis sur Instagram, sur Facebook, et même sur LinkedIn. Bien sûr, vous pouvez toujours podcaster Soft Power. C'est jusqu'à 19h30 sur France Culture, c'est en direct. Vous avez le programme, c'est parti. Il est 18h12 et on commence cette actualité des industries culturelles et numériques avec une première séquence musique. Vous aurez peut-être reconnu Lolita Yaya, on est en 62, et c'est sur ce thème léger, presque guilleret, qui accompagne le film de Stanley Kubrick, Lolita, adaptation du roman sulfureux de Nabokov. Et c'est Sue Lyon, une sublime actrice de 14 ans, plus âgée que l'héroïne du roman de Nabokov pour éviter le scandale, qui incarne à l'écran cette jeune américaine dont Humbert, le narrateur, s'éprend. Sue Lyon, cheveux blonds, corps léger, bronzé, était selon Kubrick, je cite, une nymphette parfaite. Elle s'est éteinte ce week-end à Los Angeles à 73 ans après une carrière hantée par ce premier rôle. On l'aura vu dans une vingtaine de films juste après Lolita, le plus notable étant l'immense La nuit de l'iguane que je vous conseille à tous, où elle incarnait finalement encore une fois une adolescente à la lascivité troublante. Alors que Sue Lyon nous quitte, eh bien, la question de la représentation romanesque des amours pédophiles semble connaître un regain d'intérêt, voire un renversement en cette rentrée littéraire de janvier, c'est la seconde. En septembre dernier, déjà, Christophe Tison publiait « Journal de Elle » aux éditions de la Goutte d'Or, qui racontait le long périple de Lolita et de Humbert sur la fameuse route 66, mais cette fois-ci du point de vue de Lolita, tentant de la remettre à sa juste place, celle d'une victime. Et en cette rentrée de janvier, c'est le livre de Vanessa Springora, tout simplement intitulé « Le consentement qui crée un débat violent, qui réveille les consciences ». Cette auteure y raconte comment à 14 ans, elle a été séduite, terme polysémique s'il en est, par l'écrivain, chroniqueur Gabriel Matzneff, dandy littéraire, qui racontait dans ses journaux, dans des livres, et puis à la télévision, notamment dans Apostrophe chez Bernard Pivot, ses amours pour les jeunes filles et les jeunes garçons de 10 à 16 ans maximum. Reçue partout et défendue à l'époque par une certaine critique littéraire post-libération sexuelle au nom d'une libéralisation des mœurs et des individus contre les ligues et les vertus moralistes et conservatrices, Gabriel Matzneff semble irregardable, voire inaudible, au vu de notre regard de 2019, pour tous ou presque, puisque ce week-end, des grandes plumes de la critique littéraire qui ont connu ces années-là continuent de prendre sa défense, comme Josiane Savigno, et tandis que Bernard Pivot tente un mea culpa au nom des temps qui changent. Je vous conseille véritablement l'excellente théorie culturelle de ce jeudi de Mathilde Serrel, qui postule en fait l'inversion du rapport à la transgression. Une inversion, semble-t-il, salutaire. On est en 2019, enfin. Deuxième actualité numérique cette fois. Après Tristan Harris, on l'avait reçu ici dans Soft Power, ancien employé de Google qui avait retourné sa veste. Et bien là, c'est l'un des premiers développeurs d'Amazon qui élève la voix contre le géant américain conduit par Jeff Bezos. Paul Davis, c'est son nom, était l'un des programmateurs, les programmeurs, les plus importants de sa génération. C'était le deuxième employé d'Amazon après Jeff Bezos. Il a contribué à bâtir l'architecture de ce mastodonte de la vente sur Internet. Et il plaide dans cette période de fête pour la division d'Amazon en deux. Cette boîte est indispensable, déclare-t-il dans une interview. Si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer, mais elle ne peut pas être à la fois une place de marché et elle-même un vendeur. Le groupe dispose aujourd'hui de toutes les données des entreprises qui commercialisent leurs produits sur son site et elle s'en sert pour les copier, pour les concurrencer. Contrairement à ce qu'on peut croire, rappelle Paul Davis, il ne viole aucune loi, mais il viole ce qu'on pourrait appeler le bon sens et un certain code de l'honneur dans le commerce. Pour mieux comprendre ce système, je vous invite à réécouter le Soft Power du 10 novembre dernier, où on essayait de parler d'Amazon dans tous ses états. Amazon qui, en tout cas, en cette période de Noël, et malgré les différentes actions menées contre ses entrepôts lors du Black Friday, puis à nouveau à Noël par différents activistes en France, semble plus gagnant que jamais. En France, le groupe se permet même de jouer la transparence. C'est une nouveauté dans la communication. Elle annonce 250 000 personnes embauchées pendant les fêtes, 250 millions d'euros d'impôts payés en France cette année et 4,5 milliards de chiffre d'affaires. Marie Viennot décryptait ces chiffres et la nouvelle stratégie du groupe en France dans son billet économique « Le joyeux Noël d'Amazon ». Vous trouvez toutes les références de ce billet sur notre site. Et enfin, un clin d'œil culturel et numérique pour clore cette fin d'année. J'ai lu pour vous le livre finalement peu commenté et peu regardé en France, Petite chose, les mémoires de Lisa Brennan Jobs. Ce nom ne vous dit certainement pas grand-chose. Pourtant, cette brune de 41 ans est une plume réputée aux États-Unis où elle officie dans différents journaux. Plus tôt dans sa vie, elle a été analyste dans différentes banques. Elle n'a jamais eu d'iPhone, mais c'est surtout la fille du fondateur d'Apple, Steve Jobs, entrepreneur quasiment légendaire, on peut le dire, inventeur de l'ordinateur personnel, meurt au milieu de la cinquantaine d'un cancer du pancréas. Plus encore, c'est la fille longtemps cachée de Steve Jobs. Il l'a eue à 24 ans avec son amour de lycée, une jeune peintre hippie avec qui il avait expérimenté le LSD et la vie en communauté, avant de l'abandonner brutalement au moment de l'annonce de sa grossesse. C'est celui où commence précisément sa jeune vie d'entrepreneur. Pendant des années, Lisa Brennan grandit avec cette mère bohème, perdue. Elle déménage 13 fois et elle connaît une pauvreté qui semble presque légère et colorée dans le décor fleuri et lumineux de la côte ouest américaine, avant de devenir finalement presque tragique. Si Steve Jobs, quand il lance Apple, baptise l'un de ses tout premiers ordinateurs, qu'on a un peu oublié parce qu'il n'a pas beaucoup marché, Lisa comme elle, il ne reconnaîtra jamais pendant son enfance que c'était bien dans son honneur qu'il avait donné ce nom à cet ordinateur. Après un long combat judiciaire, il finit par la reconnaître la veille de l'entrée en bourse d'Apple. Le lendemain, il est donc son père et il est déjà multimillionnaire. La petite Lisa va vivre la fin de son enfance et le début de son adolescence entre sa mère, toujours créative mais toujours fauchée, toujours incapable de se vendre, littéralement bâillonnée par son statut de mère célibataire, et Steve Jobs qui se révèle fasciné par cette petite fille qui, dit-il, représente plus de la moitié de son patrimoine génétique. Lui, on s'en rappelle peu, qui fut adopté et qui n'a cessé toute sa vie de rechercher sa mère biologique. Le livre ne décrit pas du tout le Steve Jobs entrepreneur qu'on connaît bien. Vous savez, cruel mais brillant, tyrannique mais visionnaire, irascible mais chaleureux. C'est un Steve Jobs de l'intime qui se révèle séduisant mais surtout très franchement effrayant. Tout à fait indifférent à sa richesse, certes, il achète des maisons mais il ne les meuble pas. Il ne change quasiment jamais de garde-robe, ça on le savait. Il refuse de faire changer un lave-vaisselle, ne sort pour ainsi dire jamais. Fasciné par la beauté, des formes, des polices d'écriture, on sait à quel point Apple a été visionnaire de ce point de vue-là, surtout des femmes avec qui il vit, des arbres, des oiseaux, mais tout à fait inhumain, absolument sans génie dans ses relations avec les autres êtres humains. Après avoir renié sa fille, il s'en entiche, il veut la faire vivre chez lui, mais impose du coup qu'elle ne voit plus sa mère pendant 6 mois. Il refuse de lui dire bonsoir dans son lit, il refuse de lui payer la fin de ses frais d'université parce qu'elle a refusé de venir à un week-end de sa nouvelle famille. Il lui impose de faire tous les soirs faire la vaisselle, du babysitting gratuitement pour gagner sa place dans cette nouvelle famille qu'il a créée, alors qu'il est déjà, on le sait, multimillionnaire, voire multimilliardaire. Le cœur du livre, finalement, ce n'est pas Steve Jobs, c'est peut-être le portrait en creux d'un père absent, c'est surtout un récit initiatique d'une grande qualité littéraire, à laquelle, je dois le dire, je ne m'attendais pas du tout. L'écriture très fine, très vivante, incroyablement sensorielle de Lisa Brennan Jobs, raconte quelque chose de beaucoup plus universel, en fait, sur le conflit de loyauté terrible auquel sont soumis souvent les enfants de parents séparés, amplifié ici par la différence de moyens économiques et surtout de statut social de ces deux parents. Comme l'écrit le New York Times, qui a fait de ce livre, Petite Chose, l'un de ses livres de l'année 2019, Lisa Brennan Jobs est une écrivain extrêmement douée. Il est rare de trouver chez un enfant de star un talent égal, voire supérieur, à celui du génie paternel. Et pour clore cette séance d'actualité, comme toujours un peu de musique, l'Australienne Toni Watson, qui est connue sous le pseudo Toni and I, s'est fait connaître grâce à son single Dance Monkey. C'est un succès mondial qui bat tous les records depuis sa sortie en juin 2019. La jeune Australienne a 19 ans à peine. Elle a réussi à se hisser avec ce deuxième single au top des charts dans plus de 30 pays. Et elle a cumulé près de 440 000 millions de vues sur YouTube. On a presque du mal à le dire, tant c'est important. À sa 16e semaine, Dance Monkey a battu le record du plus grand nombre de semaines au numéro 1 des charte en Australie, détenue auparavant par Shape of You d'Ed Sheeran en 2017. Ne nous faites pas croire que vous aviez échappé. Nouvelle pop star montante, en tout cas, seul l'avenir nous le dira. Il est probable que vous vous mettiez à danser au rythme de Dance Monkey le soir du réveillon. En tout cas, on l'espère, David Pata, lui, le fait déjà. Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my Australienne, Tones and I, Soft Power, France Culture, il est 18h24. Et c'est l'heure d'ouvrir notre plateau. Le numérique s'invite dans l'art. En témoigne l'essor d'artistes qui utilisent le digital. Ryoji Ikeda, Cindy Sherman, Bill Viola. Vous les connaissez, mais ce n'est pas de cela dont on parle aujourd'hui. On parle de ces expositions, performances à la frontière entre la culture et le divertissement, disent certaines mauvaises langues, mais qui se basent entièrement sur le principe de l'immersion, avec des techniques technologiques, évidemment, numériques, qu'elles prennent place dans le cadre d'expositions muséales ou qu'elles investissent des lieux dédiés. Cette décennie, elles ont fleuri partout en France. On va parler des technologies qu'elles utilisent, le mapping, le design interactif, des lieux où elles prennent place, évidemment des publics qu'elles visent, de leur modèle économique, de leur intégration en complément ou pas d'ailleurs, d'une offre muséale déjà existante et de ce qu'elles disent à notre rapport aux œuvres physiques. Puis surtout, on va essayer d'imaginer à quel point on les verra à quel point elles auront intégré nos vies dans 10 ou 15 ans. Et pour cela, nous sommes avec Annabelle Mauger. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors, vous êtes la cofondatrice avec Julien Baron de Lili 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 Art. Combien de fois on dit Lili?
Lili 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 Lili
Lili Lili Lili. Autant de fois qu'on veut.
Exactement.
C'est presque une mélodie. C'est un studio, c'est une entreprise. Comment est-ce que vous vous désignez? Une agence?
Non, c'est une entreprise, tout simplement, que j'ai cofondée avec Julien Baron, il y a maintenant 3 ans.
Et qui est à l'origine de au moins 2 expositions, dont l'une, je crois que votre premier grand pas, c'était Imagine Van Gogh, lancé en 2008 au Beau-de-Provence, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Et il y a eu depuis, et on peut toujours l'admirer, Imagine Picasso, cette fois c'est à la Sucrière à Lyon, et il y a eu un succès tellement phénoménal que vous continuez pour prolongation jusqu'au 2 février. Et avec nous aussi Fabien Baratti, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le cofondateur, vous, d'Emissive, qui est une entreprise, là aussi, hein, on peut le dire, spécialisée en réalité virtuelle, en réalité augmentée. Vous travaillez alors avec différents acteurs, des entreprises, du luxe, de l'industrie, mais aussi de plus en plus avec des acteurs de la culture, des musées, des institutions culturelles. Vous avez notamment conçu l'expo Scan Pyramids, qu'on peut vivre, une expérience. Est-ce qu'on parle d'une expo ou d'une expérience? C'est un débat qu'on va avoir. Vous préférez quoi, vous?
C'est une très bonne question. Exposition, expérience, c'est une expérience sous forme d'exposition.
C'est une expérience sous forme d'exposition, c'est à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine depuis février dernier. C'est une visite virtuelle de la pyramide de Khéops, je l'ai faite et vous l'entendrez tout à l'heure. Et puis aussi dernièrement d'une expérience autour de la Joconde qui était proposée dans le cadre de l'exposition de Léonard de Vinci au Louvre. Parce que la Joconde, on le sait, elle était restée à sa place, donc elle faisait pas partie précisément de cette exposition. Alors tous les deux, vous faites partie des acteurs de cette évolution majeure qui s'affirme. On le voit, il y a le salon Museum Connection 2020 qui va ouvrir mi-janvier Porte de Versailles, qui est le rendez-vous international des équipements sur les musées. Et il y a beaucoup de conférences consacrées justement à ces nouveaux équipements. Vous participez, Fabien Baratti, à une conférence sur la réalité virtuelle. Alors tous les deux, vous êtes spécialisés dans cette question de l'expérience de l'art immersif, mais vous n'utilisez pas les mêmes technologies et vous ne venez pas du même horizon. Alors j'aimerais comprendre un petit peu dans quel cadre et comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer ces deux entreprises, à partir de quel constat, de quel manque. Vous, Annabelle Mauger, vous venez, je crois, du livre d'art. C'est ça votre formation, votre premier boulot, on peut le dire?
Oui, en effet, oui. Au départ, je suis ingénieure en métier du livre. Et puis, il se trouve que l'année où j'ai eu mon diplôme, mon compagnon, Timothée Pelade, a souhaité reprendre la tête d'une société qui s'appelle Cathédrale d'Images, au Beau-de-Provence, qui se trouvait être un héritage familial. Pour lui.
C'est ça qui était un projet plus ancien.
Oui, tout à fait. Oui. Cathédrale d'Images a été fondée en 1977 au Beau-de-Provence. Et déjà, à l'époque, alors nous ne travaillions pas avec de la vidéoprojection, c'était tout simplement des carousels Kodak qui, à chaque fondu enchaîné, faisait clac, 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 clac. Mais a priori.
C'est de l'immersion analogique.
Exactement.
C'était ça.
Tout à fait.
Donc c'est cette idée-là, c'est ce principe, concept d'image totale. Vous appelez ça l'image
totale?
Oui,
oui. Fondée par Albert Plessy, tout à fait.
Alors quelle est la philosophie de cette idée?
L'idée, c'est que de toute façon, cette image doit sortir de son cadre et qu'à un moment donné, ce ne sont plus les visiteurs qui regardent les images, mais qu'ils sont regardés par les images. Et je crois également que c'est une manière de voir l'art autrement. Lorsque tout d'un coup, vous vous retrouvez face à un détail qui, dans la réalité, mesure 2 cm et qu'au final, il mesure 11 mètres de haut, c'est une autre vision de l'art que vous regardez et qui forcément attire votre œil différemment. Deuxièmement, lorsque vous êtes immergé dans cet art aujourd'hui numérique, vous avez un regard différent, multiple, vous baladez au final dans une œuvre d'art et je trouve cela passionnant.
Évidemment, alors on va revenir sur précisément aujourd'hui les technologies que vous utilisez et surtout sur la sensation et tout le discours qui existe chez vous et puis chez d'autres acteurs comme les Ateliers des Lumières qui font des choses assez cousines sur la place du spectateur. Mais vous, Fabien Baratti, vous venez tout à fait d'un autre monde puisque vous, je crois que vous avez fondé votre entreprise en sortant d'école de commerce, c'est ça?
En sortant d'école multimédia.
Ah, pardon, la nuance est grande, multimédia. Et alors, vous saisissez de technologies qu'à l'époque, en 2005, puisque c'était déjà il y a 14 ans, seule, vraisemblablement, l'industrie du jeu vidéo utilise beaucoup. Quelle a été l'idée? Quel a été le pari?
C'est ça. Donc, j'ai été formé, finalement, aux technologies du jeu vidéo. Mais très vite, j'ai compris qu'il y avait des usages qui allaient beaucoup plus loin que juste ce divertissement ludique. Ça peut être de la formation, ça peut être de la prévisualisation. Il y a plein, plein d'usages. Et il y a aussi plein de manières de diffuser ces contenus. Avec mon associé Emmanuel Guerriero, on a fondé Emissive il y a 14 ans. Et on s'est spécialisé en réalité virtuelle, réalité augmentée, qui utilise les technologies du jeu vidéo pour faire autre chose que du jeu vidéo, notamment des expériences culturelles.
Mais alors justement, vous travaillez, vous l'avez dit, hein, on peut imaginer toute une foule d'applications, et je sais que vous travaillez pour des marques de luxe, pour tout à fait autre chose. Tout le monde est demandeur de réalité virtuelle, c'est une question que je vais vous poser après. Pourquoi maintenant? Pourquoi moins il y a 10 ans? À quel moment vous avez vu qu'il y avait un potentiel sur le marché, c'est un terme complexe, de la culture? L'autre question, c'est combien vous êtes aujourd'hui d'entreprises à exister sur ce terrain?
Alors, au niveau du marché, c'est venu vraiment petit à petit. Et quand on s'adresse aux musées, les musées, eux, ont besoin d'évolution. Ils peuvent pas rester stagnants. Ils ont besoin de s'adapter à un nouveau public, aux attentes de nouveaux publics pour attirer des nouvelles personnes. Et ça, ces nouvelles technologies, c'est une manière d'apporter cette innovation, d'apporter cet attrait. Qui va de plus en plus vers l'expérientiel. Ça passe par la contextualisation des œuvres, des collections qu'ils ont déjà, par l'immersion et par aussi l'interactivité. Donc, c'est pas juste être ne rien faire, d'être passif devant les œuvres, c'est pouvoir interagir, avoir une action. Et autre chose qui est très important aussi, c'est le partage. On le voit de plus en plus ces dernières années avec des gens qui se prennent en selfie devant les œuvres. Ça peut paraître ridicule, mais c'est quelque chose à prendre en compte par les musées.
Bien sûr. Alors, on va peut-être revenir sur ces technologies qu'on a abordées là rapidement, parce que cette question de l'immersion, on l'a vu, c'est en fait finalement deux choses. C'est plutôt un dispositif, c'est un choix presque esthétique de la part des musées. Vous parlez d'une expérience, mais ça passe énormément par cette question de la technologie. Quelles sont les technologies que vous utilisez, vous, dans les expositions Imagine Van Gogh, Imagine Picasso, Annabelle Mauger, quelles sont les nouvelles techniques qui vous permettent de faire ce que vous faites aujourd'hui, comme le faisait Cathédrale d'Images avec du Kodak il y a 20 ans?
J'ai pas envie de vous parler véritablement de nouvelles technologies parce qu'au final c'est une technologie que nous utilisons depuis que j'avais déjà utilisée en 2008 pour Van Gogh. C'est ce qu'on appelle le numérique, c'est le fait d'être passé en vidéo projection.
Mais en vidéo projection totale, c'est ça l'idée?
En image totale, oui. Mais de toute façon, nous utilisons certes un certain nombre de vidéoprojecteurs. Je pense qu'on en cumule plus de 75 sur Imagine Picasso à Lyon, qui passe à travers un logiciel qui s'appelle Watch Out, que nous utilisons également avec Julien depuis maintenant 15 ans. Donc au final, cette technologie certes évolue, mais... pour ma part, en tout cas, je suis restée sur des logiciels que je connaissais. Parce que le fait de traiter 200 œuvres, par exemple, de Picasso, tout comme pour Van Gogh, pour d'autres peintres que j'ai pu traiter, comme Léonard de Vinci, ou d'autres que je traiterai bientôt, l'important, c'est de toujours se soustraire à l'œuvre. Voilà.
Soustraire à l'œuvre, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Que la technologie, pour moi, n'est pas essentielle. L'important, c'est que le visiteur ait cette impression d'immersion, cette impression d'image totale, qui pour moi est presque une poésie, au final. Avec Julien, je crois que vraiment ce qui nous intéresse, ce n'est pas la performance technologique, c'est le ressenti, c'est l'analyse que nous pouvons avoir. Lorsque, par exemple, je travaillais sur Imagine Picasso, il y a un peu plus de 2 mois, là, que j'étais en finalisation de ce travail, Je disais à Rudy Ricciotti, qui était donc l'architecte en charge de la scénographie de l'exposition, que j'avais en permanence l'impression d'avoir derrière mon dos, lui d'un côté, Pablo Picasso de l'autre, me disant « ne te trompe pas, voilà, ne rate pas ta cible ». Parce qu'il fallait montrer des détails de l'œuvre et que je n'avais pas le droit de me tromper. Alors vous me direz, j'ai été bien aidée pour préparer tout ça, puisqu'Androula Michael, qui est l'une des plus grandes spécialistes de Picasso aujourd'hui en France, a toujours été à côté de moi pour me guider dans ce travail. et que c'est essentiel parce que je ne suis pas historienne de
l'art. Voilà, c'est ça, parce que ça, on va y revenir après avoir parlé de ces autres technologies, mais vous êtes donc entrepreneur, mais vous travaillez donc, en l'occurrence sur Imagine Picasso, vous êtes adjoint les services de ce que je dis qu'on peut appeler une star architecte maintenant, Rudy Ricciotti, qu'on connaît pour son architecture du Mucem et d'autres projets à Marseille, qui lui donc a travaillé sur la scénographie, oui. C'est un nom important, et sur Van Gogh, c'était un nom peut-être un peu moins connu, et toujours avec des spécialistes d'histoire de l'art. C'est-à-dire que vous êtes sur deux types d'expertise. Vous, Fabien Baratti, vous utilisez différentes technologies. Donc la réalité augmentée, la réalité virtuelle, est-ce qu'on peut faire un petit rappel ?
Oui, alors, la réalité virtuelle, c'est on est immergé complètement dans un monde virtuel qui peut être réaliste ou pas, et dans lequel on va pouvoir interagir, c'est-à-dire qu'on a un impact sur ce qui se passe autour de nous. Très important, on va utiliser son corps comme dans la vraie vie. Donc on va par exemple marcher pour avancer.
Très concrètement, on a un casque sur les yeux et on a un ordinateur dans le dos. Donc c'est un système plutôt lourd, très 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 prenant.
C'est ça. Donc le concept de la réalité virtuelle, c'est vraiment l'immersion et l'interactivité, et ça passe par différents type de matériel. Donc là, ce qui est à la Cité de l'Architecture, en effet, c'est un sac à dos et un casque qui nous permettent d'être plusieurs et libres de se déplacer dans un grand espace. La réalité augmentée, c'est un peu différent parce que là, on va prendre en compte notre environnement réel. On voit notre environnement, contrairement à la réalité virtuelle, et on va y ajouter des éléments virtuels. Par exemple, des informations sur un objet, ou bien on va...
Sur un smartphone, sur une tablette.
Sur un smartphone, une tablette. Et puis, si on est devant un château en ruine, on va peut-être pouvoir le voir se reconstituer devant nous, pour se projeter dans le passé.
Donc, dans l'un, il y a plutôt une espèce de comparaison entre le réel et ce qu'on peut imaginer de ce que ça a été. Dans l'autre, il y a une projection totale dans quelque chose de totalement immersif et de totalement virtuel.
Exactement, c'est vraiment un voyage dans l'espace et le temps quand on est en réalité virtuelle.
Bon, alors du coup, je reprends la question. Comment est-ce que vous travaillez pour faire ces expositions ? C'est-à-dire vous, en l'occurrence Fabien Baratti, qui sont vos interlocuteurs sur, parlons de ces deux derniers projets que vous avez faits. Par exemple, ce que vous avez fait pour la Joconde au Louvre. Quelle était précisément l'expérience que vous proposiez ? Donc c'était cette exposition star, Léonard de Vinci, avec un nombre d'œuvres quasiment unique. Ça s'est bousculé au portillon. Mais évidemment, et on en a parlé, la Joconde était restée à sa place dans la galerie Richelieu du côté des Italiens. Elle ne faisait pas partie de cette exposition. Quelle était votre mission du coup ?
Nous, c'était de proposer quelque chose de nouveau au Louvre, hein, puisque c'était leur première expérience en réalité virtuelle, et permettre aux visiteurs de l'exposition Léonard de Vinci une rencontre, de leur faire rencontrer Mona Lisa. Donc l'expérience est une entrée littéralement dans l'univers du tableau. On se retrouve devant Mona Lisa, la dame, et on va en savoir plus sur les techniques utilisées par Léonard de Vinci. Qui c'est cette Mona Lisa ? Pourquoi elle est habillée comme ça ? Pourquoi elle a cette position ? Quel est le décor qu'on peut voir autour du tableau ? Donc c'est beaucoup d'informations et aussi, très important, créer un lien émotionnel. C'est vraiment un tête-à-tête, une rencontre avec Mona Lisa qui va nous donner beaucoup d'émotions, qui va nous donner envie d'aller voir le tableau et de mieux le comprendre.
D'aller voir le tableau qui n'est pas dans cette exposition, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que là, par exemple, on est sur une situation où finalement votre expérience, elle vient combler une forme de manque dans une exposition. Vous dites créer l'envie, mais en fait créer l'envie d'aller voir un tableau qui est juste à côté, mais qu'on n'a pas pu avoir. C'est ça l'idée.
Oui, c'est ça. Mais alors c'est vraiment quelque chose en plus. Hein. On ajoute une couche. On ajoute une couche à ce que peut proposer la réalité avec la réalité virtuelle. Et donc ça, c'est une expérience qu'on a créée vraiment en partenariat très fort avec les commissaires d'exposition, les conservateurs qui sont Vincent Delieuvin et Louis Franck. Qui ont validé chaque détail de l'expérience. Et c'était pas anodin de réaliser Mona Lisa en 3D, parce qu'on ne la connaît que en 2D sur son tableau. Et donc, il fallait essayer de comprendre comment était la chaise sur laquelle était assise, comment son voile était attaché derrière sa tête, ses cheveux, etc. Donc, c'était un challenge de ce côté-là.
Mais donc, du coup, vous travaillez avec des commissaires d'exposition et ensuite... Comment est-ce que dans votre équipe s'est pris en charge ? Il y a des designers et il y a ce que vous appelez des designers d'interaction. C'est eux les scénaristes de cette histoire.
Voilà, alors c'est un métier à part hein, qui prend en compte plein de choses, mais surtout les possibilités offertes par ces nouvelles technologies. Et notamment le fait de pouvoir interagir, puisque les utilisateurs peuvent interagir, ils sont libres d'avoir des mouvements à l'intérieur, c'est pas un film, c'est pas linéaire, alors il faut prévoir tout ce qui peut se passer et donner la possibilité de comprendre aux utilisateurs tous les messages qu'on veut leur faire passer, parce que c'est à 360 degrés autour d'eux, ils ont la liberté de se déplacer, d'interagir, donc tout ça est à prendre en compte, et donc on utilise des designers d'interaction pour créer ces scénarios dits interactifs.
Alors là on parle de Mona Lisa, c'était une expérience ou une exposition qui durait combien de temps? Combien de personnes pouvaient mettre ce casque et vivre cette expérience? Et combien de temps cette affaire durait? Est-ce que c'est flexible? Est-ce que c'est souple?
Alors là c'est pas si flexible que ça, en tout cas dans la version Louvre, parce qu'il y a plusieurs versions maintenant. Au Louvre, quand on va donc à l'exposition Léonard de Vinci, c'est une expérience qui dure entre 7 et 8 minutes pour 11 utilisateurs en même temps. Et cette expérience, elle est aussi disponible sur les stores. Donc quand on a un casque de réalité virtuelle chez soi, on peut télécharger gratuitement l'expérience et on va avoir des choses en plus. On va pouvoir visiter la Grande Galerie du Louvre, avoir des informations sur d'autres tableaux que la Joconde.
Alors ça c'est hyper intéressant, on va parler du moment où peut-être dans 10 ans tout le monde aura un casque de réalité virtuelle. Vous avez une autre exposition que les Parisiens ou nos amis qui viennent à Paris pourraient vivre, c'est cette donc expérience, exposition Scan Pyramides, c'est à la Cité de l'Architecture. Là il s'agissait de quoi? Là c'est pour le coup une expérience beaucoup plus substantielle parce que c'est 45 minutes.
C'est ça, donc Scan Pyramides VR à la Cité de l'Architecture, c'est une visite guidée en groupe de la pyramide de Khéops, comme si on y était. Ça dure 45 minutes, en effet. Et donc, le principe, c'est qu'on s'équipe d'un casque de réalité virtuelle. On voit les autres membres de notre groupe avec qui on va pouvoir communiquer, interagir. Et on est tous immergés en Égypte. Et on va pouvoir se déplacer librement dans les couloirs de la pyramide, dans les pièces de la pyramide, accompagné de notre guide qui va nous raconter l'histoire, l'architecture de la pyramide et aussi les découvertes de la mission Scan Pyramides.
Parce qu'en fait, c'est ça. Ça, vous avez pu le faire parce que vous étiez membre d'une expédition, d'une campagne de fouilles avec essentiellement des acteurs privés et que donc vous avez pu aller sur votre équipe a pu aller sur cette équipe, sur ce site de la pyramide de Khéops pendant les fouilles et pendant la campagne. Ça demande quoi en termes de travail, de temps, une équipe qui va là-bas, qui fait des photos, etc. C'est quoi la quantité de travail?
C'est difficile à estimer, mais bon, c'est plusieurs voyages, c'est un peu de matériel, c'est surtout beaucoup de travail après, en fait, pour développer tous les contenus qu'on a pu capter sur place. Il faut les réutiliser, les modifier, les adapter pour que ça rentre, si je résume, dans un casque de réalité virtuelle et qu'on puisse le proposer comme ça à différents visiteurs.
Ça dure combien de temps, quoi? Un an?
Oui, c'est un projet sur même un peu plus d'un an. C'est un projet qu'on a fait en collaboration donc avec l'Institut HIP et Dassault Systèmes. Et donc tous les membres de la mission scientifique Scan Pyramids.
Alors justement, je l'ai visité en partie pour vous. J'ai essayé d'essayer de traduire les impressions physiques que nous laisse ce type de visite. C'était samedi, Scan Pyramids à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine.
Là tout de suite, nous sommes devant l'équipement que les utilisateurs de Scan Pyramids VR vont porter pendant toute l'expérience qui dure 45 minutes. C'est-à-dire un casque de réalité virtuelle et un sac à dos qui est en fait un ordinateur qu'ils vont porter pendant tout ce temps-là.
Alors,
on commence par le sac.
Alors, on commence par le sac.
Un sac à dos.
Donc alors, comment ça se met cette chose? Oh, ah waouh, d'accord, ok.
Donc finalement, il n'y a qu'une chose à savoir au départ, c'est que quand on marche librement et qu'on tombe sur un mur virtuel rouge, il ne faut pas passer à travers parce que ça correspond au mur réel.
Oui, c'est ça.
Donc on risque de se cogner, mais ça n'arrive jamais.
Et parce que là, en fait, la pièce dans laquelle on était, qui doit faire,
120 mètres carrés.
120 mètres carrés, est devenue un espèce d'espace immense sur mon casque. C'est sans limite.
C'est ça.
D'accord, c'est le principe en fait.
Et on va se téléporter. On va se téléporter plusieurs fois.
Okay.
Pour se téléporter, on va marcher sur des téléporteurs. Donc je viens d'en faire apparaître un là, au bout de mon...
Ah oui. Ouh, et j'ai marché dessus et là, je me téléporte. Oh, Dieu, c'est extrêmement impressionnant. Et donc là, d'un coup, je suis en Égypte et je reconnais...
Non, en Égypte, de nos jours. Sauf qu'on fait 80 mètres d'eau.
C'est
Ouais, elle fait 140 mètres de haut, la Khéops. Donc là, c'est Khéops, ça va être notre sujet du jour, en fait. C'est la grande pyramide, la plus grande des trois pyramides de Gizeh. Elle est la plus vieille aussi, elle a été construite il y a 4500 ans.
En fait, là, je marche autour de la pyramide, voire presque sur des habitations en Égypte. C'est très étrange. Il faut quand même accepter d'abandonner toute capacité de contrôle sur ce qu'on voit.
On a vraiment l'impression de...
Donc là, il y a le Caire à nos pieds.
Là, il y a le Caire.
Et dans notre casque, il y a le bruit de la ville.
On va se re-téléporter cette fois en taille réelle.
Au pied de la pyramide.
Et on va monter quelques rangées de pierres pour arriver au trou d'Al-Mamoun.
Et là, on est en train de monter littéralement, c'est surréaliste.
Donc là, grâce à la réalité virtuelle, on a un ascenseur.
Un ascenseur
virtuel.
Ce
qui est important ici, c'est vraiment l'utilisation de son corps à 100% comme dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on marche pour avancer.
Ouais.
Moi, je tends mon bras pour attraper un objet. Enfin, c'est... La réalité virtuelle, contrairement aux autres médiums, elle utilise ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire notre faculté à nous représenter la position et les mouvements de notre corps dans l'espace, qui est quelque chose de très particulier. Maintenant, on va se re-téléporter, mais cette fois, au niveau de la grande galerie, sur une plateforme qui n'existe pas dans la vraie vie. Ça va nous permettre de voir de manière beaucoup plus claire tout ce qui est construit à l'intérieur de la pyramide. Là, on a vidé la pyramide de toutes ces pierres, parce que normalement, elle est remplie de tonnes et de tonnes de pierres. Sauf que là, on a tout vidé, on a laissé juste les couloirs et les pièces connues à l'intérieur de la pyramide. Et donc, on peut comprendre comment elle est constituée de manière beaucoup plus claire que dans la vraie vie, on va dire.
C'est incroyable, parce que là, en fait, on a l'impression qu'on est sous une énorme voûte, comme si on était dans une immense grange, en fait. Et au centre, j'essaie de décrire, et au centre, on a ces espèces, effectivement, d'éléments comme s'ils étaient en suspension, qui sont ceux qu'on connaît, parce que c'est tout le sujet. On ne sait pas tout de cette pyramide, je crois. Donc là, en fait, on entre vraiment comme si on y était. C'est complètement dingue.
Quand on est touriste, on monte directement à la chambre du roi et on ressort, finalement. Sauf que nous, on va pouvoir faire des choses qui sont interdites aux touristes, comme déjà aller dans la chambre de la reine.
C'est ça, là, il faut carrément quasiment ramper. Simplement, là, c'est de la photo, c'est de la reconstitution, parce qu'on a tout, on a y compris les systèmes d'urgence et d'aération dans cette pièce. Ouais. On a exactement tout. Donc ça, c'est quoi comme technologie que vous avez ?
C'est comme si on y était. Hein.
C'est vraiment comme si on y était.
C'est un mix entre scan, laser et photogrammétrie. La photogrammétrie, c'est on prend plein de photos sous tous les angles et on a des logiciels qui vont automatiquement reconstituer en 3D ce qu'on aura pris en photo sous tous les angles. Alors ça demande de la retouche après, hein, tout un travail de graphiste, mais ça permet en tout cas d'avoir ce rendu réaliste et puis ne rien oublier. Chaque fissure, chaque trou, chaque couleur, chaque câble et système est à sa place.
Puis en termes de matière, c'est très impressionnant. On a l'impression d'être effectivement face à ces murs.
On peut déjà, bien sûr, aller encore plus loin que ce qu'on voit là techniquement. Mais...
Alors, il y a plusieurs innovations dans Khéops.
À l'époque, quand il devait soutenir, quand disons une pièce, un couloir devait soutenir des très fortes charges au-dessus, ils utilisaient ce qu'ils appellent la voûte en encorbellement. C'est ce qu'on peut voir sur cette niche ici. Mm-hmm. Mais dans la chambre de la reine, on a autre chose. On a un toit dit en chevron, qui était une innovation pour l'époque, des énormes blocs de calcaire.
Donc là, vous pouvez me raconter ce qui vient de se passer au moment où vous m'avez dit ça ?
Donc j'ai fait apparaître un hologramme. Il montre comment est constitué le toit de la chambre de la reine. Donc avec ces énormes blocs de calcaire distribués en V inversé qui forment donc une voûte pour soutenir les tonnes de pierres au-dessus de la chambre du roi.
Donc là par exemple, vous avez fait apparaître un hologramme comme une mini maquette et ensuite vous m'avez montré en le faisant grossir jusqu'à ce qu'il rejoigne ce que concrètement j'ai l'impression de voir, c'est-à-dire la chambre de la reine, effectivement.
C'est ça. Donc ça, c'est des outils hein, qui permettent d'illustrer de manière très claire ce que peut dire le guide, qu'on peut bien sûr pas faire dans la réalité. Ça, c'est encore une des forces de la réalité virtuelle. D'ailleurs, je peux pas parler encore de quelque chose qu'on peut pas faire dans la réalité. On peut voir là que côté nord, là, si je m'approche du mur, je vais voir le mur qui disparaît.
Ah oui.
Ça me permet de voir...
Où je suis, à quel endroit je suis de la pyramide. Ouais. Et là, en fait, on a une vue sur là où on était censé être tout à l'heure. C'est-à-dire, on comprend très bien où on est dans l'espace, dans la pyramide. Ce qu'effectivement, on ne peut absolument pas faire dans la vraie vie.
Non, c'est ça. On peut, du coup, voir la forme du conduit, voir là où on est dans la pyramide. On peut passer à travers les murs, on peut faire les passe-murailles en réalité virtuelle.
Voilà, donc un petit extrait de cette visite à Scan Pyramide. Vous entendez mon enthousiasme, mais effectivement, il y a cette dimension physique. J'aimerais qu'on parle avec vous, Annabelle Mauger, de la sensation qu'on a quand on on visite Imagine Picasso, Imagine Van Gogh, les deux expositions que vous avez réalisées, qui sont tout à fait différentes en termes de conception. Vous l'avez dit, donc vous travaillez avec un spécialiste en histoire de l'art, un spécialiste de l'œuvre, avec aussi un scénographe. Donc, sur la conception, est-ce que Van Gogh, Picasso, on est sur la même chose ?
Non, pas du tout. Parce que, justement, l'art dont on parle aujourd'hui, l'art numérique, semble dématérialiser, puisque nous ne sommes pas face à l'œuvre d'art telle qu'elle existe. Donc il faut la rematérialiser à un moment donné. Pour cela, forcément, soit on reproduit l'œuvre telle qu'elle existe, donc on la lance, enfin on la projette sur des murs verticaux qui ressemblent au final à un canevas.
Ce qu'a fait au début l'art numérique, c'est-à-dire il y a eu des moments où on s'est dit ça va être ça le musée de demain, on aura juste des photos dans des cadres.
Sauf à Cathédrale d'Images. Où d'entrée de jeu, nous projetions sur des façades et sur des murs qui, du coup, étaient cubistes, puisque vous aviez cette empreinte humaine des blocs de pierre qui étaient retirés, donc vous n'aviez et qui, en plus, permettait de projeter une image qui forcément se retrouvait fragmentée, brisée sur des arêtes. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus, vous parliez de mapping tout à l'heure, l'un des ancêtres du mapping.
Alors qu'est-ce que le mapping d'ailleurs ? On n'a pas précisé ce qu'est le mapping, ça fait très chic comme mot, on en retrouve donc évidemment à l'Atelier des Lumières, à la Gaieté Lyrique. De quoi s'agit-il précisément ? C'est ça ?
Alors le mapping au départ, c'est simplement prendre une photo d'une façade, entrer cette photo dans un logiciel, et ce logiciel va véritablement prendre en compte l'architecture, les volumes de cette façade, et vous allez pouvoir adapter votre image numérique à ces volumes. Donc au final, c'est comme un puzzle, c'est comme deux morceaux de puzzle qui rentreraient véritablement, qui s'emboîteraient parfaitement. À Cathédrale d'Images, justement, non. Nous préférions qu'il y ait véritablement dialogue entre cette surface et le média projeté. Ce qui était intéressant, justement, c'est de faire en sorte que pour dialoguer, ben, il ne fallait pas que ce support d'un côté, que cette image réceptive de l'autre, colle peau à peau. Donc, justement, pour faire ressortir, au final, ce que nous souhaitions dire de cette image, et puis peut-être également faire ressortir sa singularité, sortir du cadre véritablement, eh bien, il fallait aller jusque sur des supports qui n'étaient pas en adéquation avec l'image projetée et qui, quelquefois, voire se trouveraient brisés.
Brisés. Donc, vous avez, par exemple, et ça, c'est là que c'est intéressant, pourquoi est-ce que l'exposition Van Gogh n'est pas tout à fait la même que celle de Picasso ? C'est-à-dire que, contrairement à, par exemple, on parle de l'Atelier des Lumières, qui a toujours peu ou prou la même surface selon les expositions qui sont projetées. Donc, je crois qu'il y a aussi une exposition sur Van Gogh. Ça, on va revenir sur les choix des artistes. Hein. C'est un vrai sujet. Là, en l'occurrence, vous n'avez pas du tout fait la même scénographie entre les deux parce qu'on ne parlait pas la même chose, en fait.
Je crois qu'avec avec Picasso, nous avons brisé tous les codes. Déjà parce que jusqu'à présent, la plupart des expositions immersives ou des expériences immersives, parce que moi, j'aime pas le terme d'exposition immersive, personnellement.
Ah, pourquoi donc ?
Parce que déjà, c'est un terme qui ne nous appartient pas. C'est pas un terme qui appartient à l'image numérique. Au départ, c'est un terme qui appartient au monde muséographique. Une exposition immersive, au départ, telle qu'elle a été créée par le milieu muséographique, c'est simplement le fait de, justement, afin de pouvoir faire venir du public dans tous ces musées, de renouveler aussi ce public, le fait de lui offrir une expérience différente, en écrivant des choses sur les murs, enfin voilà, en quittant au final ce côté académique que nous avions dans la plupart des musées, avec de petits panneaux qui nous précisaient la date, le lieu et ces informations qui représentent un intérêt. Soyons clairs là-dessus.
Ah, mais vous êtes presque mériter. En train de dénigrer l'exposition avec les vraies œuvres.
Non, pas du tout. Non, je les dénigre absolument pas. Bien au contraire, je préfère. Vous voyez, par exemple, ce matin, je visitais au Grand Palais l'exposition Toulouse-Lautrec. Justement, le fait d'avoir sur tous ces murs, la vie de Toulouse-Lautrec, avoir toutes ces informations qui vous permettent aussi de mieux comprendre l'œuvre, je trouve que ça a un réel intérêt. Et cela vous permet d'être immergé davantage dans les œuvres que l'on vous présente. Et à Cathédrale d'Images, tout comme dans mon travail aujourd'hui dans ces expositions immersives, c'est l'essentiel. Et vous parliez de ces modules et de cette scénographie créée par Rudy Ricciotti. Le fait d'avoir brisé tous les codes, puisque justement, l'expérience immersive est aujourd'hui souvent basée sur une forme de hauteur, une verticalité. Ce sont des expos qui font rarement moins de 8 mètres de haut, dans des espaces souvent très grands. Certains de nos détracteurs disent « voilà, c'est du papier peint collé sur les murs ». Je le reconnais. Bah, moi, j'avais envie de casser tout ça, parce que malgré tout, vous parliez de 2008, mais je vis dans cette image totale depuis 2001.
Donc ça fait bientôt 20 ans.
Ça fait 20 ans, voilà. Ça fait 20
Donc vous voulez dire que vous faites peut-être même pas mea culpa, mais vous progressez vous aussi dans votre manière
d'envisager cette expérience. Non, c'est pas une manière de progresser. Je pense que c'est simplement prendre en compte l'œuvre que l'on a envie de défendre. Et je ne pouvais pas parler de Picasso sur ce type, avec ce type de format.
Softpower, il est 18h55. À suivre jusqu'à 19h30. On continue évidemment à parler d'exposition ou d'expérience immersive. Je crois que c'est le terme qui est en train de gagner le combat autour de la table ce soir. On va parler désormais des lieux dans lesquels vous exposez, de votre modèle économique, c'est un vrai sujet, des critiques qu'on peut vous faire, de la manière dont vous voyez ces deux entreprises et ce que vous proposez évoluer dans les dizaines d'années à venir. Et puis à 18h13, vous retrouverez, vous en mourrez d'envie, Frédéric Martel. Il est en Égypte. Il nous parle du nouveau canal de Suez qui a ouvert en 2015, c'est une question de soft power. L'Acmé, le duo des fleurs sublimissimes ici avec Sabine Devielle et Marianne Crébassa, je l'aurais casé, mais en fait il était dans l'exposition Imagine Van Gogh que vous avez donc qui a tourné pendant des dizaines d'années. Vous l'avez présenté à Paris, à la Grande Halle de la Villette, vous l'avez présenté au Beau-de-Provence, vous l'avez présenté au Canada.
Elle est actuellement,
vous avez raison, en même temps qu'Imagine Picasso à la Sucrière à Lyon. Donc ça c'est tout un accompagnement musical qu'il y a dans ces expositions, parfois lié à la temporalité. L'Acmé c'est Léo Delibes, c'est la fin du 19e siècle, c'est peu ou prou en même temps que Van Gogh, mais vous aviez fait des choix beaucoup plus, disons, singuliers et personnels. Parlons des lieux dans lesquels tous les deux vous proposez des expériences. Vous, en l'occurrence, les Baux-de-Provence, c'était donc cathédrale d'images, c'était un lieu privé.
Oui, tout à fait.
La Grande Halle de la Villette ne l'est pas, elle est en partie publique. Si
oui.
Je ne m'abuse.
Mm-hmm. Voilà. Mais loué dans un cadre privé.
Loué dans un cadre privé, c'est ça.
Oui.
Et vous avez présenté aussi, par exemple, au Carré des Docks, au Havre. Mm-hmm. Là, pour le coup, c'est pareil, c'est un lieu privé qui normalement reçoit des entreprises et qui cherchait un moyen d'optimiser, en fait, son lieu pendant les vacances d'été où il y a peu ou pas vraiment d'événements d'entreprise. Vous, aujourd'hui, vous êtes dans un modèle totalement, totalement privé. Qu'est-ce que c'est, ce modèle économique?
Je l'ai toujours été. Ouais. Cathédrale L'image était une SARL privée. Au final, ce n'est pas du tout une industrie culturelle qui est financée par l'État. Voilà, dès le départ, j'ai envie de vous dire, ça a toujours été une entreprise privée. Aujourd'hui, moi, je travaille avec Encore Production, dirigée par Pascal Bernardin. Encore Production est une filière de Fimalac. Donc oui, de toute façon, c'est un système économique totalement privé.
Comme l'Atelier des Lumières qui va ouvrir, je crois, deux autres antennes à Bordeaux, si je ne m'abuse. Donc c'est des lieux, et on a beaucoup d'exemples qui existent de plus en plus à l'étranger aussi. Museum of Ice Cream à New York, il y a un lieu à Barcelone, il y a beaucoup de lieux en Corée du Nord, vous avez beaucoup voyagé. C'est quasiment tous des modèles privés?
Oui, en fait, je vous dirais que Cathédrale d'Images a eu de nombreux enfants.
Vous le dites comme ça, c'était Cathédrale d'Images le père. Le billet est entre quoi, 12, 13, 14 euros selon les lieux?
Oui.
Et ça vous permet, c'est quoi, comment est-ce que vous avez déterminé cette fourchette?
en fonction du nombre de visiteurs attendus. À un moment donné, comme vous le précisez, le fait de rentrer dans un modèle économique, il faut devenir rentable.
Et alors, vous avez des directeurs qui vous avez à la fois, c'est très intéressant de regarder tout simplement les commentaires, et puis globalement, comme moi, j'ai été voir Imagine Van Gogh à la Grande Halle de la Villette, j'ai vu un petit peu les réactions. Il y a à la fois des gens qui sont très impressionnés et très contents pour une expérience de 15 minutes, et d'autres qui disent on paye 15 euros pour un son et lumière. Comment est-ce que vous recevez justement cette question et comment est-ce que vous pensez ce modèle économique? Ou vous le voyez évoluer dans le futur? Est-ce qu'il est bien comme ça? Il restera comme ça?
En fait, je pense qu'il est très français. Par exemple, là, comme vous le disiez, cela fait une quinzaine de jours que j'ai ouvert Imagine Van Gogh au Canada. Le prix est nettement plus élevé. On part sur un billet
pour entre 20
et 30 dollars canadiens.
Ah ouais.
Et comment vous dire, les prix que l'on pratique en France sont quand même très liés à une industrie culturelle qui est sponsorisée par l'État. Enfin, voilà. Et c'est formidable. Au final, l'accès à la culture en France est nettement favorisé par cette politique culturelle. Et malheureusement, à l'étranger, on en bénéficie moins. Cependant, à l'étranger, par contre, vous avez de nombreux modèles culturels privés que nous avions peu en France jusqu'à présent et qui, aujourd'hui, comme celui de Cathédrale d'Images, comme celui des projets Imagine, commencent à prendre de l'ampleur.
Et alors, comment je vais le formuler autrement? C'est quasiment équivalent, 12, 13, 14 euros, peut-être un peu moins, que ce qu'on paierait pour aller voir une exposition où il y aurait les œuvres en vrai. Comment est-ce que... Alors, c'est la question. Qui vient vous voir et pour quelles raisons? Est-ce que ce sont les mêmes qui viennent aux expositions? Parce qu'on l'a vu, ça on peut le dire, ça fait partie des choses qu'on dit quasiment toutes les semaines ici. Les grandes expositions connaissent un succès qui vraiment ne se dément pas. Léonard de Vinci au Louvre, le Gréco au Grand Palais, on en parlait. Il y a cette fascination pour le contact avec les œuvres physiques. Comment est-ce que vous expliquez qu'à la fois vous fonctionnez plutôt bien et vous Fabien Baratti, on voit mon émerveillement alors que je ne suis pas du tout dans la pyramide de Khéops et que je le sais. Comment est-ce que vous expliquez cette fascination-là et c'est quoi l'articulation de ce que vous faites avec les publics muséaux classiques? Vous avez l'impression, est-ce que vous avez compris qui vient vous voir?
Il y a deux questions, j'ai l'impression, dans votre question. La première chose que j'ai envie de vous préciser, nous étions là sur un sujet d'art numérique. Oui, je pense que l'art numérique est en train, a même déjà vécu, sa première révolution. Pour reprendre une de vos émissions qui a été diffusée hier matin sur France Culture, plan large, je pourrais vous poser la même question en ce qui concerne...
Le cinéma.
Exactement, le cinéma.
Et le théâtre. Voilà. Mais le cinéma coûte... A priori, sensiblement moins cher que le
théâtre.
Non,
c'est pas vraiment cette question-là. L'idée, c'est de savoir comment, tout d'un coup, on peut rendre l'art nettement plus populaire. Parce que, comme vous le précisiez, les expositions dont vous parlez, déjà, sont parisiennes. Ces expositions ne circulent pas. Aujourd'hui, vous avez un souci, en ce qui concerne les assurances aussi, de toutes ces œuvres. Je vois très mal une exposition comme le Gréco débarquer demain à la Sucrière. Vous avez certes, par exemple, à Lyon, une très belle exposition, comme on a pu en avoir. Vous en avez une sur Matisse, vous en avez une bientôt sur Picasso, d'ailleurs, qui va commencer.
Oui, tout à fait, ça.
Vous en avez une à Grenoble également, mais elles n'ont pas l'ampleur d'une exposition parisienne, que ce soit au Louvre ou au Grand Palais. Ça, c'est la première raison.
Donc, ça peut, disons, remplacer un problème de contact avec l'œuvre. Est-ce que c'est un complément?
Non, pas du tout. Je pense que c'est une expérience différente. On est véritablement, par rapport à cette révolution numérique, dans une nouvelle manière d'appréhender l'œuvre. Et je crois que cette nouvelle manière de l'appréhender permet de se l'approprier. Au final, c'est ça le plus important. Je pense que dans une exposition en image totale telle que nous les fabriquons avec Julien Baron, le plus important c'est ça. C'est que les gens s'approprient véritablement les œuvres qu'ils voient. La deuxième chose, c'est que leur manière aussi de se l'approprier, c'est justement d'être immergé, c'est de rentrer dans des détails. Et de ce fait, par contre, je pense que non seulement nous parlons d'un public qui, oui, ne va pas régulièrement aux expositions académiques classiques telles que nous les connaissons, mais permet aussi à un public de connaisseurs de redécouvrir l'œuvre. J'ai envie de vous renvoyer vers une interview qu'avait donnée le petit-fils de Picasso
oui.
et qui
disait... avait dit le plus grand bien.
Oui, et qui justement partait du principe qu'il redécouvrait l'œuvre de son grand-père grâce à ce type d'exposition.
Alors vous, Fabien Baratti, votre modèle économique, on est sur des technologies tout à fait différentes. pour certaines beaucoup plus chères. Alors, Scan Pyramides, l'exposition qu'on peut voir à la Cité du Patrimoine et de l'Architecture, je crois qu'elle est entièrement offerte par un mécène, cette exposition, c'est ça? C'est-à-dire que le musée n'a pas payé?
Le musée n'a pas payé, c'est donc Emissive et Dassault System qui ont...
Et Dassault System, qui donc c'est du mécénat pur, parce que concrètement ça veut dire quoi? Que la Cité du Patrimoine et de l'Architecture n'aurait pas pu s'offrir ça?
Ou alors, enfin non, je ne pense
pas. On ne sait pas, on ne va pas aller jusque là, mais c'est très très cher comme budget et les budgets sont limités dans les musées.
Et, voilà, exactement. Ce qui n'empêche, c'est que ce format en particulier peut être profitable. Il suffirait d'augmenter la jauge et ce serait donc un des modèles culturels profitables, un des rares.
Ouais, parce que vous, en fait, vous qui faites de la réalité virtuelle, donc c'est encore un autre système, pour le moment, vous faites essentiellement ça à côté ou dans l'enceinte de musée muséal. Vous n'êtes pas tout à fait autonome comme l'est par exemple Annabelle Mauger sur des expositions comme Imagine Picasso ou Imagine Van Gogh. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit rentable? C'est-à-dire on va faire le saut dans le temps. Qu'est-ce que ça coûte en moyenne? Et on va essayer de moi de donner un chiffre, une valeur d'échelle pour un projet comme Scan Pyramides, parce que vous avez clairement un créneau sur le patrimoine. Là, on parle de la pyramide de Khéops. Je crois qu'il y a 300 personnes qui peuvent entrer chaque jour. Moi, j'ai eu le grand bonheur, petite fille, de visiter la tombe de Nefertari, mais elle est fermée aujourd'hui au public. On connaît évidemment la question de la grotte de Lascaux. Donc vous avez un boulevard en fait sur le patrimoine concrètement aujourd'hui. Comment est-ce que vous pourriez rendre ça rentable?
En fait, ça peut déjà l'être. Il suffit d'avoir des espaces suffisamment grands avec un flux de visiteurs suffisamment important. Et c'est techniquement possible. On peut déjà le faire facilement. Voilà. Après, il faut investir pour acheter tout le matériel et produire ce contenu.
C'est quoi un budget? Un budget, si on peut essayer de faire un budget entre la production et la location d'un matériel. Par exemple, Scan Pyramides, à l'équilibre, il aurait fallu combien de gens qui viennent, qui puissent visiter en même temps l'exposition pour amortir le coût de cette expérience, de cette exposition?
Sur ce genre de format, qui vraiment qu'on débute, qu'on est en train de développer, il faudrait environ 40 personnes en même temps, dans un espace. Ce qui représenterait en fait, nous on pense plutôt, on réfléchit plutôt en années, on veut s'approcher des 100 000 personnes par an, ce qui est pas du tout incroyable par rapport à une exposition à succès. Et on pense qu'il y a un vrai marché justement parce que les gens n'ont pas acheté un billet d'avion, ça coûte beaucoup moins cher que d'aller.
Donc c'est ça, vous, c'est presque une réponse, disons, à un défi écologique, le tourisme de masse. Est-ce que vous avez l'impression que dans 10 ans, les gens seront aussi contents de faire une visite telle que moi je l'ai faite à Paris au Trocadéro et du coup renonceront à aller en Égypte? Qu'est-ce qui se passera? C'est la même question un peu que j'ai posée à Annabelle Mauger.
J'espère que ça leur donnera envie d'aller sur place, mais avant tout, je pense que c'est on veut vraiment que ce soit créer même un besoin d'aller découvrir des lieux du monde entier à côté de chez soi. C'est vrai qu'on c'était une de la question tout à l'heure. Nous, on privilégie les musées en ce moment.
Mais
on n'est pas obligé.
C'est là où vous êtes assez différents tous les deux. Vous avez une vie presque autonome avec avec votre entreprise, et vous, vos partenaires, c'est plutôt les musées qui ont été quand même à une époque assez frileux, notamment parce qu'ils savaient pas exactement ce que c'était et parce que c'était des technologies qui coûtaient très cher. Là, on a l'impression, vous me disiez quand on a préparé cette émission, je pense que dans 5 ans, chaque musée a sa salle de réalité virtuelle.
Voilà, sa salle de immersive, on va dire, parce que c'est quelque chose qui va forcément se développer. Je vois pas comment ça pourrait être autrement. Et en fait, quand les musées ont été créés à l'époque, c'était un des seuls endroits où on pouvait voir des images et des sculptures. Finalement, il y avait un vrai côté de divertissement quand les musées ont été créés. Ça s'est perdu. Avec les nouvelles technologies, ces technologies immersives, on peut redonner cet aspect attractif de divertissement, c'est pas un gros mot, je trouve, autour de la culture.
Je pose la question autrement. Les musées, on l'a vu, ils ont besoin, mais les musées, clairement, en ce moment, n'ont pas de problème de fréquentation, pas tous. Alors certains, oui, je sais que certains musées, certains châteaux, par exemple, jouiraient beaucoup de ce type de questions, des lieux de patrimoine, des musées comme le Louvre, des musées comme le musée d'Orsay. Et j'ai envie de dire, les musées où sont exposés les gens à qui vous consacrez des œuvres. Parlons simplement des contenus de ces expositions. Là, on parle de Khéops, lieu star. Vous avez travaillé sur Léonard de Vinci, vous sur Van Gogh, aussi sur Léonard de Vinci. Vous avez envie de faire des choses sur Van Gogh, je crois. Pourquoi est-ce qu'on tombe toujours sur ces 5 ou 6 peintres stars? Autrement dit, est-ce que ce serait un trop gros pari aujourd'hui de faire des expositions comme ça avec, disons, un aspect de recherche un peu plus important? Pourquoi est-ce qu'on tourne toujours autour des 5-6 mêmes noms?
Je suis pas d'accord avec vous.
Je vous pose la question. Vous pouvez me répondre.
Alors, d'abord personnellement, en ce qui concerne Van Gogh, le point de départ, c'est tout simplement de parler d'une région que je connais par cœur, tout comme Julien.
Voilà. Et où était ancré le lieu où vous avez commencé.
Exactement, cathédrale d'images. De toute façon, l'exposition ne traite que des deux dernières années de la vie de Van Gogh. Voilà, c'est Saint-Rémy-de-Provence, Arles, et on termine bien évidemment Auvers-sur-Oise. Picasso, c'est une expérience différente. Je voulais le faire depuis très longtemps. Pareil, ça n'a rien à voir, ça n'a pas lieu en fait avec l'aspect populaire du peintre. Non, c'est tout simplement parce qu'il a un attrait incroyable en ce qui concerne ce type d'exposition. Après, vous avez des expositions incroyables, par exemple comme celle qui a été proposée par Team Lab, collectif
japonais, voilà. C'était à la Grande Halle de la Villette.
Exactement, en 2018. Et qui n'a rien à voir ni avec Van Gogh, ni avec Picasso, ni avec je ne sais quel autre artiste le plus connu.
Et qui a très bien fonctionné, ce qu'on appelle, ça avait fait une longue traîne. C'est-à-dire ça a très bien marché par le bouche à oreille. Alors je parle à nouveau de l'Atelier des Lumières, donc c'est celui qui fait aussi des expositions immersives à Paris, a proposé un festival à cet automne qui s'appelait Émergence, je crois. J'ai un trou, qui proposait pendant 5 jours, pendant 5 soirs, de voir une dizaine de jeunes collectifs qui avaient réalisé des œuvres pour cela. Le ticket était très cher, 45 euros, et ça durait à peine une semaine, comme si finalement c'était une très grosse prise de risque. Donc il n'y a eu que des aficionados qui avaient les moyens de payer 45 euros pour passer 2 heures dans un endroit, qui ont pu se l'offrir finalement. Est-ce que vous avez l'impression, tous les deux, qu'à terme, vous serez capable de collaborer, vous qui avez ces entreprises, avec des jeunes artistes qui vont émerger par les médias? Fabien Baratti.
Oui, je pense que oui. Alors, pas forcément dans les très prochaines années. Hein. C'est vrai qu'il faut, pour nous en tout cas, des lieux, des œuvres, des artistes emblématiques pour attirer du monde. Hein. C'est quand même c'est l'aspect marketing. Mais à terme, vraiment, tout le monde pourra être... utiliser ces technologies immersives, n'importe quel artiste.
On le fait déjà. On le fait déjà parce qu'au final, vous ne le voyez pas, mais certains effets de ces expositions sont préparés. Oui, certains détails sont conçus, par exemple, je pense à l'une des étudiantes des Gobelins, par exemple, de l'école des Gobelins, qui est juste une des plus grandes écoles en la matière.
Merci beaucoup, Annabelle Mauger, Fabien Baratti, Lili Lili Art et Émissive. Et tout de suite, il est 19h13 sur France Culture et on a terminé avec ce magnifique plateau sur les expériences immersives. Je rappelle donc qu'on peut voir, imagine, Picasso, c'est à la Sucrière à Lyon jusqu'au 2 février et qu'on peut toujours voir Scan Pyramide, c'est à la Cité du Patrimoine et de l'Architecture. Et tout de suite, on part en Égypte retrouver Frédéric Martel qui, à l'occasion des 150 ans du canal de Suez, est allé réaliser un reportage sur le nouveau canal de Suez qui a ouvert en 2015, qui était le symbole de l'impérialisme français à sa création en 1869 avec le fameux Ferdinand de Lesseps. Ce nouveau canal est devenu le symbole de l'Égypte d'aujourd'hui, militaire, industrielle, du président Al-Sissi.
Il y a précisément 150 ans, fin 1869, était inauguré le canal de Suez. L'inauguration était française. C'est l'impératrice elle-même, l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III, qui a fait le déplacement, accompagnée par le célèbre Ferdinand de Lesseps, l'entrepreneur et diplomate français qui a construit ce canal de Suez, qui se situe entre le golfe de Suez au sud, et Port Saïd au nord, le long du Sinaï, en Égypte. Il relie donc la mer Méditerranée à la mer Rouge. Emblème hier de l'influence française et aujourd'hui symbole de l'Égypte militaro-industrielle du général Al-Sissi, devenu président, nous sommes maintenant sur le canal de Suez, à Ismaïlia, à 150 km du Caire, où 1 million de nouveaux emplois, dit-on, sont en cours de création. Le nouveau canal de Suez, mirage ou miracle égyptien, un reportage pour France Culture, réalisé fin novembre à Ismaïlia, la nouvelle capitale du canal de Suez.
Tétre chagal ou la tétahol? Ah, de la zine, tétahol, comme un sous. نجمو مو قام داوي
عادي اسمعوا كل عادة
Nous voici dans la salle de contrôle générale du canal de Suez. Dans cette tour d'Ismaïlia, on surveille le mouvement de dizaines de bateaux conteneurs dans l'ancien canal et le nouveau qui a été dédoublé en parallèle. Le capitaine Mohamed El Sayed Hassanin est dans la salle de contrôle. Superintendant de la marine égyptienne, cet ancien militaire est en charge de la circulation et de la sécurité sur ce double canal pour la Suez Canal Authority. Il s'exprime en anglais et est accompagné d'un de ses adjoints chargé de la communication qui parle, lui, français.
Qu'est-ce qui se passe ici ?
Ici, nous sommes dans la place où on dirige la navigation dans le canal. On l'appelle le cuisine. Ici, le cuisine.
C'est la cuisine ?
Ici, la cuisine. On dit ça. On dirige et on ménage la navigation dans le canal.
Donc là, on a des écrans très nombreux, on voit les bateaux passer, ceux qui vont traverser, c'est ça ?
Oui, on a des écrans, et ces écrans ici, c'est couvert avec des énormes radars. Énormes radars pour couvrir tout le canal, depuis le mer Méditerranée, l'entrance du canal du Nord, jusqu'à la mer Rouge, c'est l'entrance du Sud. Tout est couvert par des radars. Et on a aussi des écrans pour voir avec la caméra live tous les bateaux, tous les navires qui traversent le canal depuis l'entrance jusqu'à la sortie. Aussi, on a un système qui s'appelle AIS. Donc, on a trois systèmes pour contrôler la navigation dans le canal. On a les radars, on a les caméras, on a le AIS qui est relié avec le satellite. Les satellites.
Qu'est-ce qu'on voit d'ici ? Là, on est devant le canal, à un étage très très élevé. On voit.
Yeah, you can see this is the old channel. You can see the container vessel.
Voici l'ancien canal de Suez. Vous pouvez voir les porte-containers qui proviennent de Port Saïd au nord pour rejoindre le sud à Suez. Vous pouvez également voir le nouveau tronçon du canal de Suez derrière ces porte-containers.
This container, you can see another container. This is a new channel. It's not far away, but is close to the old channel.
Le nouveau canal est donc proche de l'ancien. Les porte-conteneurs y viennent de Suède au sud pour rejoindre le nord du canal.
Donc là, on voit bien qu'il y a deux conteneurs qui se croisent.
Oui, en effet, les porte-conteneurs se croisent dans les deux sens, avec des convois allant vers le nord et des convois allant vers le sud.
Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Morning.
Et ça va aujourd'hui? Everything is good?
Yes, everything is going in the right track. It is our task here to control the navigation.
C'est notre rôle de contrôler la navigation ici, afin d'éviter toute collision ou situation dangereuse qui pourrait avoir lieu.
Vous les surveillez sur tous les écrans, il y a énormément d'écrans.
Yes, along the shift, here we are monitoring the screens or the displays here.
Oui, ici nous surveillons et suivons tous les bateaux afin de connaître leur vitesse et de savoir tout ce qui se passe sur le canal.
Everything that happening or taking place here in the channel. So I think it is our main job here is to control everything here, to control.
Je pense que notre mission principale est de tout contrôler, c'est-à-dire contrôler les bateaux de leur entrée dans le canal à Port Saïd jusqu'à leur sortie à Suez.
Et demain, par exemple, demain on sera dimanche, combien il va y avoir de bateaux ici ?
On a 23 bateaux du nord et 23 bateaux du sud. La partie doublée dans le canal ne peut pas contenir plus que à peu près 40 bateaux. Donc on a demain 46 bateaux. Les 6 bateaux en plus, qu'est-ce qu'on va faire avec lui, avec ces bateaux ? Elle va faire le garage dans un place qui s'appelle le Great Bitter Lake. Elle va voir le garage. Et continuer la route après les 40 bateaux passent.
Aujourd'hui, le canal de Suez, c'est 25% du trafic mondial de ce qu'on appelle les bateaux conteneurs, les conteneurs. 1 milliard de tonnes de produits qui transitent là chaque année. L'essentiel du commerce maritime entre l'Asie et l'Europe, par exemple, a lieu dans ce canal qui vient d'être élargi sur 37 km et approfondi.
Il permet désormais de faire transiter plus de bateaux en même temps et des bateaux toujours plus gros. Alors, président de la République, François Hollande, avait inauguré la première tranche achevée des travaux d'élargissement et d'approfondissement de ce nouveau canal. C'était en 2015. Il faut dire que c'était déjà l'un des méga projets du président Al-Sisi, désormais terminé et réinauguré à l'occasion de ses 150 ans du canal de Suez. Le coût total, 8 milliards de dollars, deux fois plus que ce qui était initialement prévu. À terme, le canal devrait être la troisième source de revenus pour l'Égypte, le symbole aussi de cette nouvelle Égypte voulue par ce militaire devenu président. Le canal de Suez se veut un symbole hard du nouveau soft power égyptien, à la fois un symbole maritime et commercial, mais aussi géopolitique. La nouvelle route de la soie de la Chine à l'Europe passe par ce canal. Nous avons maintenant quitté la salle de contrôle pour rejoindre les bords du canal, dans la voiture du capitaine Mohamed El Sayed Hassanin, en charge de la circulation et la sécurité pour la Suez Canal Authority. Devant nous, des bateaux qui transportent du gaz naturel liquide, LNG en anglais, passent. Maintenant, nous sommes au bord du canal. Quel est ce bateau ?
Ce bateau est un LNG. Il y a un autre bateau qui est en train d'arriver derrière, qui est également un LNG. Ils viennent tous les deux de Port Saïd et naviguent dans l'ancien canal. Derrière cet ancien canal, nous voyons le nouveau canal à l'est avec des cargos qui se dirigent vers le nord.
C'est quoi ce monument qu'on voit là ?
Il s'agit du mémorial de la guerre entre l'Égypte et l'Israël en 1973.
Et là, on a un très gros bateau qui arrive, immense. Vous savez sa nationalité ? C'est quoi comme type de bateau ?
Quand elle arrive, vous verrez la flag of. Maybe Qatar, maybe we'll see. When she
D'ici, nous pouvons apercevoir un drapeau sur un des deux bateaux. Et il vient probablement du Qatar. Nous verrons mieux lorsqu'il s'approchera de nous. Vous pourrez voir le drapeau du pays.
Qu'est-ce qu'il transporte, selon vous ?
Il transporte du LNG. Ce cargo transporte du gaz. Le plus grand bateau est d'une compagnie qatari, comme on le remarque avec le drapeau du Qatar.
His name El Marouna. They write forward of this vessel the name by English and by Arabic. You can see the.
Le nom du bateau est à la fois écrit en anglais et en arabe. Al Marouna.
Because this ship is Qatar company, so Qatar this is Arab country. His name El Marouna.
Et là, il va à quelle vitesse ?
Now speed is down because they change pilot.
La vitesse est basse car ils ont changé de pilote. Avec ce changement, la vitesse du bateau doit diminuer pour atteindre la vitesse minimale, soit environ 5 nœuds.
And after change pilot, so Boursaid pilot disembarque and everything clear, he start increase his speed until 9 knots.
Après le changement de pilote, le navire pourra augmenter sa vitesse jusqu'à 9 nœuds, qui est la vitesse de transit de sécurité dans le canal.
Là, on a des matériaux très dangereux sur ce bateau. Et donc, du coup, il est escorté par un petit bateau, c'est ça ?
Due to the cargo of this vessel have LNG, so this is dangerous cargo.
Ce bateau transporte du LNG, c'est donc un cargo dangereux. Il doit donc être escorté par un bateau durant toute sa traversée du canal.
So you can see the white tugboat. This is escorted with.
Vous pouvez voir le bateau blanc qui est en train d'escorter le cargo LNG.
Les jugements sur le nouveau canal de Suez sont très partagés. Projet économique vital ou simple opération de communication, les Égyptiens que j'ai interrogés au Caire ou à Ismaïlia sont divisés. Certains pointent le fait que l'élargissement du canal va dynamiser l'économie égyptienne et éviter à bien des containers de faire le tour par l'Afrique, ce qui sera une bonne chose en termes écologiques. D'autres, à l'inverse, soulignent que multiplier les bateaux containers est une hérésie à l'âge de la transition écologique. La presse égyptienne, muselée, ne dit guère de mal de ce projet pharaonique du général Al-Sisi, qui se double d'ailleurs de la création d'une nouvelle capitale égyptienne, baptisée pour l'instant New Capital, et qui est déjà en cours d'être construite entre le Caire et Ismaïlia, et que j'ai également visité. Des centaines de bâtiments sont en train de sortir du désert comme des champignons. Il y a déjà là des mosquées, des universités, un palais présidentiel colossal, et des centaines de policiers partout, dans les rues en construction. Une vraie ville ou un mirage ? L'avenir nous le dira. Nous finissons la journée dans la maison privée du capitaine Mohamed El Sayed à Sanine, qui nous offre du café turc. Étrange maison que la sienne, au demeurant. Elle a une petite plaque à l'entrée qui nous révèle qu'un jeune chanteur français est né là. C'était en 1939, dans cette maison égyptienne d'Ismaïlia, et qu'il y a passé toute sa jeunesse. Son père, Aimé François, était justement lui aussi le chef du trafic pour le canal de Suez, un peu l'ancêtre finalement, le prédécesseur, si on peut dire, du capitaine Mohamed El Sayed Hassanine, qui nous accueille et qui vit dans cette maison, ce qui explique que le jeune Claude a grandi là, à Ismaïlia. Qu'est-ce que c'est ça?
This is Claude François.
What's the name of the song? Quel est le nom de la chanson?
Alexandria.
Dans la maison de Claude François.
Yes, he sung now in his house.
Et vous comprenez pas ce qu'il chante. You don't understand what he thinks.
No, I think so.
Il était très jeune à cette époque. He was very young at that time.
Yes, he's young, maybe 30 years
old.
Oui,
très jeune, peut-être 30 ans.
Et il a vécu ici dans cette maison de quel âge à peu près?
From 1935.
Claude François est né ici en 1939.
Here.
Here, yes.
Et il est resté ici combien de temps? How long?
15 years until 1950, 52, something like this.
Et il est resté ici environ 15 ans.
Alors ici, on est dans la maison de Claude François.
Oui, nous sommes actuellement dans la maison de Claude François, dans laquelle il a vécu avec sa famille.
Il est né ici.
Il est né ici et est resté jusqu'à ses 15 ans. Avant de partir pour la France.
C'est original que le commandant de la station du canal de Suez habite la maison de Claude François.
Yes, when I take this house, I tell him I want everything stay same like Claude François.
Oui, lorsque j'ai choisi cette maison, j'ai souhaité tout laisser pour donner l'impression que Claude François vit encore ici. J'ai voulu laisser l'empreinte de la personnalité du chanteur. Les changements réalisés ont donc été minimes.
Il y a même une baignoire ici.
Yes. Yes, like I show for you everything. So Claude François.
Oui, donc Claude François s'en est servi et j'utilise donc après Claude François.
Le nouveau canal de Suez, Mirage ou Miracle égyptien, un reportage de Frédéric Martel pour Soft Power sur France Culture. Merci à Meda Hassan pour son aide ainsi qu'à David Pata pour les traductions.
Et oui, car le soft power de la France, c'est aussi le soft power de Claude François. Merci infiniment à vous tous pour votre écoute. On en reste là pour ce soir, soft power, pour aller plus loin, évidemment, toutes les références, des articles, des livres dont on a parlé dans cette dernière émission, mais aussi des expositions. Tout cela et bien d'autres informations sont toujours à retrouver sur le site de France Culture. Émission Soft Power, vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power sur notre site France Culture, sur iTunes ou sur toutes les applications podcast de votre smartphone. La semaine prochaine dans Soft Power, vous retrouvez Frédéric Martel, là il est en Égypte, mais il sera au micro et nous recevrons Étienne Guernel, le DG de l'hebdomadaire Le Point, pour évoquer l'avenir de cet hebdomadaire et de la presse magazine en général. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. Et puis j'ai encore le temps de vous signaler que demain, dans les matins, Gérard Noiriel, historien et directeur de recherche à l'EHESS, spécialiste de l'immigration et de l'histoire de la classe ouvrière, sera au micro de Guillaume Herner. En attendant, très bonne soirée à l'écoute de notre chaîne, bonne fin de week-end, bonne fin d'année et très bon réveillon à tous.